Puis mange de tout les habitués de café. Certains breuvages présentent cette particularité qu'ils perdent leur saveur, leur goût, leur raison d'être quand on les boit autre part que dans les cafés. Chez un ami, chez soi, ils deviennent apocryphes, comme grossiers, presque choquants, tels les apéritifs. Tout homme, s'il est alcoolique, comprend qu'une absinthe préparée dans une salle à manger est sans plaisir pour la bouche, malséante et vide. Enlevés de leur nécessaire milieu, les dérivés de l'absinthe et de l'orange, les vermouths et les bitters blessent par la brutalité de leur saveur, ardente et dure, et qui dira la liquide horreur de ces mixtures. Servies dans de pâles guinguettes ou dans d'opulents cafés, ces boissons fleurent les plus redoutables des bénéfices. Aiguisées par de l'anisette, assouplies par de l'orge gras ou de la gomme, devenues plus débonnaires par la fonte du sucre, l'absinthe sent quand même les sels de cuivre, laisse au palais le goût d'un bouton de métal longuement sucé par un temps mou. Les amers semblent des extraits de chicotin. Rehaussé du sucre de coloquinte et chargé de fiel, les bitters se rappellent des eaux de boho ratées et rendues acerbes par des macérations de cassia et de suie. Les malagas sont des sauces longtemps oubliées, de pruneaux trop cuits. Les madères et les vermouths sont des vins blancs croupis, des vinaigres traités à la gomme-goutte et aromatisés par on ne sait quelle infâme décoction de plantes. Et pourtant, ces apéritifs qui coupent l'appétit, tout homme dont ils gâtèrent l'estomac l'avoue, s'imposent aux imprudents qui les dégustent une fois devant une table à plateforme mal essuyée de marbre. Fatalement, ces gens reviennent et bientôt absorbent à la même heure, chaque jour, des corrosifs qu'ils pourraient cependant se procurer, de qualité moins pernicieuse, de prix plus bas chez les marchands. Ils savouraient mieux assis chez eux, mais ils sont obsédés par la hantise du lieu public. C'est là que le mystère du café commence. Parmi l'immense population de Paris asservie d'années par cette coutume, plusieurs catégories existent. Les uns fréquentent régulièrement tel café afin d'entretenir une clientèle qui s'y désaltère, d'amorcer des commandes ou d'apprêter avec d'autres habitués quelques-uns de ces spéciaux larcins que la langue commerciale qualifie de liquoirs, bonnes affaires et hardcore. Les autres y vont pour satisfaire leur passion du jeu, poussent sur le prétendu d'un billard, de brouillon de billes, remue d'aigres dominos, de fragas sans jacquet, ou graissent en se disputant de silencieuses cartes. D'autres fuient dans ces réunions les maussaderies d'un ménage où le dîner n'est jamais prêt, où la femme bougonne au-dessus d'un enfant qui crie. D'autres viennent simplement pour s'ingurgiter les contenus variés de nombreux verres. D'autres encore recherchent des personnes résignées sur lesquelles ils puissent déverser les bavardages politiques dont ils sont pleins. D'autres enfin, célibataires, ne veulent point dépenser chez eux de l'huile, du charbon, un journal, et ils réalisent d'incertaines économies en s'éternisant devant une consommation à la saveur épuisée par des carafes d'eau. Qui ne les connaît, ces habitués? Dans des livrets de café diverses, ce sont plus ou moins riches, mais d'une indigence de cerveau semblable, les mêmes magasiniers échappés pour une heure ou deux de leur boutique. Les mêmes négociants assermentés des estaminets voisins des boulevards, les mêmes courtiers rappelant de ramassant dans leurs affaires derrière la bourse, les mêmes journalistes en quête d'articles, les mêmes bohèmes à l'affût de crédit, les mêmes employés gorgés de plaintes. Tous cherchent dans la fumée en clignant les yeux, et le garçon qu'ils hèlent par son prénom s'enfuit. Une fois installés, ils fument, crachent entre leurs jambes, échangent des aperçus sans nouveauté entre deux parties de cartes. Une certaine cordialité défiante se décèle entre gens d'un métier pareil, une sorte de politesse commerciale, réglemente ce débraillé d'homme, à l'aise, loin des fermes. Les coulissiers s'acceptent pourtant. Pendant la bourse, ils entrent dans leur café, ne disent ni bonjour ni bonsoir, ne se saluent même pas, causent à la cantonade, boivent une gorgée de bouée verte, et sans même toucher de la main à leur chapeau, se bousculent et sortent sans fermer les portes. L'attrait que le café exerce sur ce genre d'habitué s'explique, car il est composé de dessins en jeu, de besoins de lucre, de repos aviné, de joie bête. Mais en sus de ces habitués dont la psychologie est enfantine et dont la culture d'esprit est nulle, il en est d'autres sur lesquels l'influence despotique agit. Des habitués riches ou de village, célibataires invaincus, sans ménage, à fuir, sans sobre exécrant le jeu, ne parlant point, lisant les journaux à peine. Ceux-là sont les amateurs désintéressés, les habitués qui aiment le café, en dehors de toute préoccupation, en dehors de tout profit, pour lui-même. Cette clientèle se recrute parmi de vieilles gens, surtout parmi des savants et des artistes, voire même parmi les prêtres. Forcément, les excentriques et les maniaques abondent dans cette petite caste d'individus réunis et s'isolant dans une passion unique. À les observer, ces habitués se regardent en dessous, sans désir de se connaître, mais ils ont la provisoire bienveillance des complices. Chacun d'eux a adopté une place qui ne le quitte plus, et d'un tacite accord, tous s'assoient devant leur table d'élection, se passent la carafe d'eau frappée et les journaux, et se saluent en souriant, puis se griment d'une mine rêche comme pour prévenir les appâts de politesse et des avances, et involontairement ils regardent la pendule, constatent que le voisin d'ordinaire si exact est en retard, éprouvent un certain soulagement lorsqu'il arrive, une vague appréhension s'il ne vient pas. Il s'y intéresse presque, non pour sa personne même, mais pour la place qu'il occupe auprès d'eux, pour sa figure dont l'absence est contrarie, pour l'accessoire qu'elle est dans ce café, dont le milieu fait de mille détails se désagrège si l'un d'eux se modifie ou manque. Parfois, alors que pendant plusieurs jours et pour des motifs certainement impérieux, le voisin se dérobe, l'habitué se hasarde, quand il paye sa consommation, à demander au garçon de ses nouvelles. Et si cet inconnu revient, il s'incline devant lui, puis se concentre, taisant le souci qu'allège ce retour, souhaité par tous. Il va de soi que ce n'est ni dans les brasseries aux foules négligées et empuanties par de la fumée de pipe, ni dans les estaminets commerçants, ni dans les cafés de gala, que ces exceptionnels clients s'assemblent. Il leur faut à eux des cafés spéciaux, des cafés où survit la tenue surannée des anciens âges, des cafés où officient d'immuables garçons qui, à les fréquenter, se décolorent et se font même par flatterie pour le vieux, servir plus vieux. Et ces cafés d'ailleurs, ces cafés immobiles dans le brouhaha d'un siècle, existent à Paris, sur la rive gauche de la Seine, dont certains quartiers exaltent à fleurs cléricales et intimes, antiques et doux. C'est sur la lisière de ce 6e arrondissement, peuplé de prêtres et de relieurs, d'imaginiers religieux et de libraires, que ces habitués se recrutent et façonnent à leur image des estaminets, où l'on ne joue pas, où l'on parle à peine, et où l'on se comporte un peu comme dans un salon, démodé de vieux veufs. Le plus curieux, le plus typique d'entre eux, tous, est situé rue des Saint-Père, au coin de la rue de l'Université, non loin du quai. Maison séculaire, tenant à des prix épicés, un des restaurants de fine chair dans un salon à panneaux blancs et d'or, tendu d'étoffes en damas vert, genre empire. Le café Caron étant une salle un peu sombre, propice aux yeux fatigués, et de même que la petite pièce où l'on mange, liserie de filets d'or sur fond blanc, des glaces couvrent les murs, séparées entre elles par de minces colonnes plates, barrées de raies d'or. Des divans de velours amarante, usés, bordent derrière les tables de marbre toute la salle. Près d'un escalier en vis qui conduit au désert d'un étage toujours vide, sous un œil de bœuf, un comptoir en acajou orné de colonnes à chapiteaux de cuivre et d'une mythologie de secrétaire empire, une cérès de cuivre dans un char, escortée de femmes vêtues d'étoffes à tubes et à plis et dansant sur un pied, les bras en l'air, et surmontée du livre courant des contes au-dessus duquel, entre deux vases désargentés, une dame en noir aligne les identiques recettes que chaque jour apporte. Au premier abord, ce café ne semble pas différent des bons vieux serfs de la province, mais sa clientèle, qui est vieillotte et bizarre, et qui ne fleure ni le cancanage, ni le désœuvré mesquin d'une province, a déteint sur la physionomie et marqué d'une particulière étampe la sénilité de ses pièces. Des mœurs maintenant abolies s'y révèlent. Les garçons chenus, blanchis sous le très ancien harnais, servent en silence, vous remercient du pourboire, vous mettent votre paletot, vous précèdent lorsqu'on sort, ouvrent et ferment la porte en vous rendant grâce d'être venu. Ces manières ne paraissent-elles pas étranges, dans un temps où tous les garçons de café ne répondent pas aux appels ou hurlent « boum », jonclent avec les carafes et les tasses, cabriolent avec les plateaux et les verres, et s'enfuient alors qu'on leur demande un journal. De même que les garçons, qui semblent plus vieux que leur âge, les bouteilles partout, si lentes tabageuses de liqueur, s'apprivoisent dans ce café, taisent leurs voyantes étiquettes, se vieillissent sans tirer l'œil sur la petite table où elle bivac. Là seulement, réunis, se faisant valoir en un groupe non échelonné sur des étagères, elles font courtoisement ressentir leurs formes variées, presque féminines, quasi humaines. Absinthe coiffée d'un capuchon d'argent, écartelée de la croix de Genève, avec le nom de Pernod sur fond cobalt, amer picon, enveloppé comme des bonnes de chez Dorval, du col aux pieds, par le tablier blanc de leur étiquette, flacon de sirop et de gomme au cours bossu de langue, au buste couvert par la serviette en couleur d'une petite affiche, nounou à bavette de papier rouge et à grosse gorge, pleine de bandes vertes, commères à bedon pour le curaçao, gamine brune et nue, flétrie d'une feuille de vigne au bas du ventre. Garçon de grandelette, sans poitrine et sans hanches, réservée aux présomptueuses, imposture des fines champagnes et des grands cognacs. Et c'est dans ce milieu douillet, au ton tranquille, qu'il faut observer le véritable habitué dont j'ai parlé, l'homme qui va au café sans intérêt de jeu, puisqu'on n'y joue pas. D'affaires, car aucun négociant ne le fréquente, sans désir de conversation, car on n'y parle guère, sans même le besoin de pipe fumée, libre, car le jardin de la pipe y est interdit, très déserté le soir, il est de 5 à 7 heures, presque plein. Au fond, souvent, deux jeunes prêtres qui chuchotent en buvant un vermouth noyé d'eau. Parfois, un autre plus âgé, aux vastes épaules, fit le correspondant et prend des notes. Il est le voisin d'une tête socratique, avec un nez en badernasse de trèfle, des moustaches en brosse à dents, grises, des yeux clairs et tamponnés, qui sautillent dans une face grenue, piquée de lentilles et de loupes, une face jaune de mongole. Obèse, flottant malgré son ventre, dans une culotte tire-bouchonnée qui tombe, vêtue de drapements firipés et gras, coiffée d'une claque terne dont on voit les ressorts, il s'affaisse sur la banquette, enlève une petite serviette en toile cirée à manuscrit asiatique et cassé en deux sur la table, tirant sur un porte-cigarette en plâtre, imitant l'écume, il souffle, relève la tête, Après longuement le bain de breuvage de son absinthe, boit une gorgée, grimace, remet de l'eau, remonte son pantalon, griffonne avec un crayon dont il mouille le bout sur les marges du manuscrit que ses doigts tapotent. Et près de cet homme qui doit être ou professeur ou répétiteur à l'école des sciences orientales voisines, jaillit d'une masse de cheveux blancs la tête d'un savant juif, avec sa barbe vide en pointe, ses lunettes rondes en sa calotte de velours noir. On dirait, s'il portait le rabat blanc, d'un très antique rabbin. Celui-là boit une tasse de café, rêve, sans bouger, les yeux vides, pendant des heures. Puis il ôte sa calotte, l'engouffre dans le sac d'un immense poche, et très poli, saluant très bas, avec l'un de ses antiques chapeaux noirs, qui s'évasent comme des peaux d'enfant, il disparaît toujours dans la rue, à gauche. Membre de l'une des sections scientifiques de l'Institut, ne persécute point, ainsi que je supposais, le texte reprisé du tribunal du Talbad, mais il évoque sans doute, sur les murs de la salle, une saltarelle de signes algébriques, décante les nombres qui cavalcadent devant lui en un mirage de pattes de mouche, les uns au-dessous des autres. Et au moment où il sort, apparaît sur le seuil une tête porcine, un groin qui remue entre deux petits yeux rusés, au-dessus d'une vaste bouche aux larges lèvres, et entre un vieux homme à carrure bourguignonne, l'air bon enfant et narquois, gourmand et pingre. Celui-ci porte encore le col en gueule de brochet, la cravate blanche à trois tours, l'ancien goitre rattaché sur le devant par un tout petit nœud, et il arbore la redingote ancestrale, la redingote verte du portier. Il dépose soigneusement le parapluie rouge à bec de canne qu'il traîne par tous les temps, et se fait servir le bitter spécial à la maison, le bitter pour exploration de la Hollande. Maître du droit féodal, inquisiteur des capitulaires et des coutumiers, ce jurisconsulte du nom de Coquille écrit dans les journaux religieux d'incommensurables articles, pieux et lourds. D'un geste méprisant, il repousse les feuilles que les garçons empressés apportent, se rentre la tête dans le cou, somnole ou songe en plantant et en pianotant quelquefois de ses doigts spatulés le ballon de son verre. Et parfois il grimace un déférent sourire, alors que Genevieux vient s'asseoir près de lui et rit en le regardant très fond de ses yeux clairs. D'autres fois, avec un traducteur de Walter Scott, employé de la maison Dido, un petit homme grassouillet et gelé, dont le crâne est ecclésiastiquement bouclé de cheveux très blancs, il ergote et son groin joyeusement s'effare, alors que l'autre, suçant un tout petit cigare, répond en baissant les yeux d'un ton docte. Ça et là, quelques gens décorés lisent des journaux et des revues, buvant tous les bitters, puis au fond du café, un inexplicable couple. Un homme et une femme encore jeunes, l'homme une figure d'officier, sorti du rang, tiré à droite par l'eau majuscule d'un monocle. La femme, une bourgeoise, sans emphase et sans flafla, peut-être aimable. Aussitôt nati, l'homme déploie un rouleau, tire des dessins ou des gravures, et longuement, en se tortillant la moustache, les regarde. Puis, un mot hésitant, très bas à sa compagne, qui le scrute et le replie. Alors, sans plus parler, l'homme s'allonge, les jambes tendues, son chapeau noir à bord plat, en peau à beurre sur la tête, les mains dans les poches, et il fume une cigarette, les yeux au ciel, tandis que la femme verse de l'eau glacée dans les bitters. Ces gens-là sont-ils des collectionneurs ou des marchands? Mais s'ils achetaient et vendaient des dessins et des estampes, L'un des deux au moins garderait la boutique. Mais comment s'admettre d'autre part des amateurs qui trouveraient tous les tours jour une aubaine? Comme ils sont venus sans bruit, ils partent bras dessous, unis en un couplément, l'homme ruminant on ne sait quoi, la femme souriant d'un air vague. Tels les invités de ce café auquel on peut adjoindre une sorte de pot à tabac, de gros yankee muet qui s'absorbe dans les panaches de fumée déroulés du tronc d'arbre qui l'en embouche, puis devant une bouteille de verre de gris et de gomme, le triste paysagiste harpigny qui dormait se congestionné sur des feuilles à images, enfin un homme plus jeune, pâle et sec, où avait le cheveu couleur de poussière, en brosse, pourvu d'un nez en sabre turc, une barbe blonde, Dieu qui sous des paires sourcils explore les voisins, tandis que ses maigres doigts roulent des machinales cigarettes qu'il allume. Une année, ce milieu placide s'attrista, sentit l'hospice, pua Bicêtre. Un vieillard hémiplégique et gratteux était amené par une bonne que le faisait asseoir, coupait du pain dans une tasse de café au lait, puis s'en allait et revenait chercher son maître après une heure. Ce malheureux était sinistre. Transporté par instant de silencieuse rage, il soulevait des tempêtes dans son café qu'il fouettait en grognant de ses mouillettes. Que me querait-il faire là, lorsque sans bouger il aurait pu boire chez lui l'eau saumâtre d'un semblable bol? Personne ne le sut. Il s'absenta, ne vint plus, et tous pensèrent qu'il était mort. Disparut aussi un type des plus bizarres, un petit homme goutteux, la tête dans les épaules, vêtu par tous les temps d'un Macfarlane et coiffé d'un chapeau mou. Il avait une farce barbue, surmontée d'un long crâne qui semblait cire au cicatif, des yeux aigus et en garde, une physionomie attentive et mauvaise. Il dînait dans la salle du restaurant entre 4h30 et 5h, et rentrait dans la pièce commune en tenant un morceau de pain. On apportait alors une assiette blanche sur laquelle il posait son cigare, puis une tasse de café et une carafe. Debout, arpentant le plancher d'un bout à l'autre, il dénouait sa cravate et déboutonnait son gilet. Il allait ensuite s'asseoir, goûtant le café, émiettait son pain dedans, mangeait, vidant à mesure la carafe dans sa tasse, rallumait son cigare qui s'éteignait. Il réclamait enfin un verre et d'anciens journaux qu'il dépeçait en lanière avec lequel il essuyait ses doigts qu'il trempait dans l'eau. Les garçons l'appelaient « Le quoi, monsieur ?»« Le comte le quoi ?» et subissaient en souriant des revues fades qu'il mâchonnait d'une voix grisaillante, tout en faisant voyager sur son front la peau glissante comme savonnée en dedans de son crâne. Ce vieillard débraillé, vêtu d'habits sordides, possédait 80 000 livres de rente et logeait dans un hôtel voisin où ses exigences se venaient haïr. Il était italien, comte, avait été camérière secret du pape Pie XI et exilé par le cardinal Antonelli, rentré en grâce. Il est récemment parti pour Rome, où il a, sexagénaire et maniaque, épousé une jeune fille de 18 ans qu'il doit, ainsi que sur mon Macfarlane, traîner dans des cafés. Il a essayé l'ici comme une légende. Florentin, le très jeune, sénile garçon, qui a si longtemps supporté ses acrimonies et ses frasques, perd toute solennité, rajeunit, s'éveille lorsqu'il en parle. En supposant que cet ancien diplomate fût à Paris, le bruit en courait du moins, l'un des plus effilés espions du Vatican. Ce n'était certainement pas dans ce café qu'il pouvait surprendre de précieux secrets. Alors pourquoi y venait-il? Mais pourquoi ces gens qu'il côtoyait tous les jours s'y attablaient-ils régulièrement eux aussi? L'appât d'un bitter laboratif, cordial, sûr et insuffisant à expliquer cette coutume, d'autant que parmi ses habitués, plusieurs ne savouraient point les dédaigneuses délices de cette amère rose. Dans l'une de ces boutades rapportées par M. Bergerat, M. Théophile Gautier affirme que l'attrait du café est triple. Il satisfait d'abord, disait-il, un besoin de vie publique et se substitue à la vie de famille dont on est là. Puis le café est enfin le temple du dieu tabac, et c'est là que l'on fume bien et non ailleurs. Enfin, ajoutait-il, sa séduction n'est que le goût de l'abrutissement par la boisson. Ces motifs me semblent seulement applicables à quelques pochards et à quelques sots. Ils sont en tout cas subsidiaires. L'attirance des foules sur certaines personnes peut se démontrer, en effet, et l'horreur de la solitude existe. Mais il n'en est pas du tabac comme de l'absinthe ou des vermouths. Tout le monde fume une cigarette dans son logis et n'a nul besoin de l'odeur d'un estaminet pour la humer. Et parmi les habitués, combien sont des gens sobres et qui boivent sans s'abrutir, comme le veut le bon Gautier? Le contraire serait peut-être plus juste. L'habitué intelligent, savant, exceptionnel, j'en conviens, celui dont je parle est le seul qui soit intéressant par sa culture même, a besoin de se visiter, de s'asseoir en soi-même, de rester seul pendant quelques minutes, loin d'amis, s'il est célibataire, loin de sa femme, s'il est marié. Cette distraction de sa vie, il la savoure dans une atmosphère quiète, sur une auberge propice, dans un café mort. D'autre part, ces gens sont visiblement des gens très bien élevés, mais ils n'aiment pas le monde. Leur tenue et un certain laisser-aller le décèlent. La solution de l'énigme peut être là. Ces habitués trouvent une sorte de salon, mais un salon où l'on n'est pas forcé de s'habiller, de parler, de subir le bavardage exténuant des dames. Ils réalisent sans doute cet idéal de pouvoir songer et voyager en repos, au loin, dans le tiède milieu d'une convenable compagnie muette. Il faut croire cependant que cette clientèle restreinte de rêveurs ne suffit pas à faire vivre les cafés qu'ils fréquentent, car le café Caron est mort de misère et a été naturellement remplacé dans la rue des Saints-Pères par un bazingue. Ses habitués errèrent pendant quelques jours, ne sachant plus que devenir, puis ils émigrèrent dans un lieu presque semblable, mais gâté pourtant par un élément militaire au café d'Orsay, situé au coin de la rue du Bac et du Quai. Ce café moribondait quand ils vinrent, et ils l'achevèrent. Une inéluctable faillite l'emporta. Ce fut la fin de tout. Et depuis lors, l'âme des habitués se désempare.